Allez, c'est parti.
C'est chaud.
Hop, hop, yen, hop, hop, yen, et tous les autres aussi, bonjour. Ce n'est pas un homme qui vous parle aujourd'hui, mais un ange. Non, rassurez-vous, je ne m'adresse pas à vous depuis l'au-delà. Enfin, je crois. Attendez, je vérifie. Non, je suis bien là. Ou alors le paradis ressemble à un studio de France Inter, bien qu'il soit tout rouge comme les flammes de l'enfer. Bon, c'est donc un ange qui vous parle en ce moment. Tout ça grâce à Jean-Charles de Castelbajac, notre invité, qui m'a littéralement transformé il y a quelques années en créature angélique, en me badigeonnant de peinture à l'occasion d'une performance télévisuelle, encore dans toute ma mémoire. Vous me direz que Castelbajac dessine des anges partout où il passe, illustrant à la lettre la célèbre expression « un ange passe ». Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il est en train de repeindre ce studio qui ne s'en plaint pas puisqu'il n'avait plus vu de pinceau depuis 1977. Oui, JC, puisque ce sont les initiales qu'il partage avec Jésus-Christ, Jules César et Ghislain Contana, notre réalisateur, met de la couleur partout où il passe, un peu comme Mary Poppins, quoique pour d'autres raisons, et il dessine comme il respire depuis quelques décennies déjà, ainsi que nous le rappelle ce beau livre au titre explicite « Dessin tout terrain », prétexte, s'il en fallait un, à sa visite aujourd'hui. Oui, mes bien chères sœurs, oui, mes bien chers frères, Jean-Charles de Castelbajac vient nous visiter en ce jour de grève, lui qui ne s'arrête jamais. Cette émission s'intitule en son honneur « Le roi Pantone ». Pop, 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 et c'est parti.
France Inter. Super. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Jean-Charles de Castelbajac qui retire son pull noir. Ouais, oh, voilà, sexy là. Hein, gardez la chemise quand même.
Ouais, je
qu'est-ce
qui
se passe
chemise.
C'est l'émotion là.
C'est l'émotion. L'émotion. Puis le rouge et le noir. C'est...
Ah ben évidemment, rouge et noir, ça faisait beaucoup. Quand Jean-Charles, quand je parle de Mary Poppins, ce n'est pas tout à fait hors de propos, parce que vous faites le bonheur des enfants en ce moment même,
oui,
à Beaubourg, avec cette exposition atelier, Le peuple de demain. On va y revenir, mais je voudrais d'abord savoir comment l'homme d'aujourd'hui, Jean-Charles de Castelbajac, celui que j'ai en face de moi, se sent dans ce monde âgé, ce monde, qu'est-ce que j'ai dit âgé, agité.
Ce
et
monde
instable
agité,
qui est le nôtre.
Je me suis jamais senti aussi en place avec mon talent pour proposer des chemins et partager des ondes positives fait.
Hein, l'impression parce de que, servir à quelque chose.
J'ai l'impression vraiment que je suis là pour une mission entre guillemets. Pour révéler des talents, pour dialoguer, je le vois au quotidien. Dimanche, j'étais au Centre Pompidou sur la plateforme de mon installation, Le Peuple de Demain, et j'ai eu 1100 personnes de confessions différentes, d'âges différents, et en fait, il y a cette chose fédératrice qui est l'art, qui est l'art de faire les choses ensemble, qui est cette idée de partage, qui est cette idée de communion autour de la couleur, de communion autour du geste, et voilà, c'est pour ça que je me sens bien.
Mais Jean-Charles de Castelbajac, je parlais des anges que vous dessinez un peu partout aujourd'hui, mais pour vous connaître
depuis
un peu, je sais quel indéfectible optimiste vous êtes. Est-ce qu'on finit par faire preuve d'angélisme à force de dessiner des anges?
On finit par développer une autre forme de spiritualité fait, comme la spiritualité d'un bretteur, de quelqu'un qui se bat en duel, parce que c'est une spiritualité active. Mmh. En fait, chaque ange que je dessine...
La spiritualité du bretteur.
Ouais, voilà. Oui, de bretteur. Je vois pas d'autre. Ma craie est une épée, en fait.
Mmh. Et sauf que le bretteur est en danger. Il risque sa peau.
Mais dessiner des anges, il y a ce sentiment particulier de fragilité. Par exemple, quand je suis face à un mur, je sens des présences derrière moi, j'entends des voix. Donc c'est pour ça aussi que je dessine aussi rapidement. Ouais. Mais chacun de ces gens, de ces anges, a une mission, ou de réconfort, ou de signal, ou de compassion. Mais j'ai très souvent des retours
Donc vous croyez vraiment
messages.
Aux anges?
Ah ben bien sûr.
Ah oui.
Je crois aussi au rôle de chacun. Ouais. De nous en tant qu'ange, au-delà de toute forme de spiritualité, d'écoute, de solidarité, ça c'est certain.
Est-ce que ça fait...
On a eu beaucoup de cas d'anges gardiens durant la décennie que nous venons de vivre.
Est-ce que ça fait de vous un ange?
Pas du tout, pas du tout. Il y a cette chanson de Piaf magnifique qui dit « Johnny, tu n'es pas un ange ». Elle est pour moi.
Si vous devez avoir à choisir entre deux types d'anges, vous êtes plutôt dans la team Lucifer ou dans la team Gabriel?
Ah, plutôt Gabriel, définitivement. D'ailleurs, dans mes aventures...
Attends, Lucifer, c'est celui qui porte la lumière.
Ouais, mais dans mes aventures de créateur, puisque c'est mon blaze, c'est-à-dire de dessiner à la craie, j'ai été suivi, mes anges à la craie ont été suivis pendant 5 ans par des anges à cornus faits à la craie rouge. Et j'ai jamais... Je commence à savoir qui les faisait, en fait.
On vous suit à la trace,
mais,
si je veux dire.
Mais mon père me disait toujours le diable n'est pas un ennemi, c'est un adversaire.
Jean-Charles de Castelbajac, il y a cette phrase de vous que j'adore, je vous cite, il faut contrecarrer la dystopie avec la renaissance de l'utopie.
Oui.
Ok, concrètement, on fait quoi?
Bah, concrètement, on y va, quoi. Ouais. On y va. On est dans l'élan de proposer des choses, des chemins. C'est ce que j'ai fait avec le peuple de demain. Je me suis dit, il est temps de donner des outils aux enfants, de leur dire, voilà, construis tes signes, compose, fais un dessin quotidien, voilà. Et l'utopie, c'est ce qui m'a porté, en fait. Hein, je suis un enfant d'utopie. Je voyais, je croyais aux soucoupes volantes, je voyais décoller des fusées vers la Lune. Et je me dis que cette utopie, elle m'a porté, parce que c'était une forme de rêve et de possibilité. Et après, on est rentré dans cette génération, pour les millénials d'aujourd'hui, dans ce temps de dystopie, de nous dire la Terre meurt, ce qui est vrai, mais donc qu'est-ce qu'on fait? On réagit. C'est ce que je propose dans le peuple de demain.
On contrecarre avec l'utopie. Jean-Charles, nous allons donc parler un peu plus de cette expo, le peuple de demain, qui est à découvrir au Centre Pompidou jusqu'au 9 mai, mais aussi de votre très beau livre Dessin tout terrain, qui est édité chez Flammarion, qui rassemble une sélection de vos plus beaux dessins de 70 à nos jours. Aujourd'hui, Jean-Charles de Castelbajac, vous le savez, c'est une journée spécial de solidarité avec les femmes afghanes, à suivre sur l'antenne toute la journée et sur les réseaux avec le hashtag Avec les Afghanes. Avec nous également tout à l'heure la photographe exilée en France, Rada Akbar. Jean-Charles, quand je pense à vous, enfin quand je pense à vous, disons à une chanson, eh bien je pense évidemment à Angèle. I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Garde dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Plus souvent c'est quand je pense à toi. I've got a fever. Can you check? Hand on my forehead. Kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever. So can you check? Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Cause I don't really wanna cool it down. Angèle, évidemment, puisqu'on parle d'ange. Elle est ici en duo avec Dua Lipa, Fever. Et c'est dans un pop-up qui s'annonce très coloré. Et vient de nous rejoindre celle qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais pour elle, eh ben, c'est le roux. Bonjour Charline.
C'est faux Antoine, je ne suis pas rousse. Bonjour.
Bonjour.
Charline, Jean-Charles, Jean-Charles, Charline. Charline, vous êtes allée dimanche visiter l'installation de Jean-Charles de Castelbajac au centre Pompidou, à la Galerie des Enfants, pendant que j'étais coincé, moi, sur le périph' du côté de la Muette. Ce qui est un peu paradoxal hein, quand on fait de la radio. Mais enfin bon, alors, quid du peuple de demain?
Eu égard à mon jeune âge, j'ai joué les émissaires ravis, et le peuple de demain, vu sur place, me semblait aussi ravi de naviguer entre les 8 activités proposées sous forme d'ateliers qui mêlent le son, la vidéo, le dessin, les constructions en puzzle de totems, devenus des totems A-I-M-E. Les drapeaux sont dépossédés de toute idée de nationalité, mais deviennent des emblèmes destinés à afficher des idées, des émotions. On peut créer de la musique grâce à une marelle sonore, créer des partitions à partir de symboles, se mettre en scène comme un symbole animé, bref, mettre en lien l'affect, l'image et le son. L'expo a débuté fin septembre et comme vous demandez, Jean-Charles de Castelbajac, à ce peuple de demain de créer blason et symbole, est-ce que vous avez jusqu'ici pu observer un motif récurrent?
Je dirais que le cœur.
Ouais.
Le cœur est le motif récurrent absolu. Hein, qu'il ait des ailes, des mains, une couronne, des pieds, le cœur revient systématiquement. Ensuite, c'est l'étoile, la lune, bien sûr, hein, qui sont, et la terre. La terre, souvent, moi je l'ai suggéré avec une larme pour guider certains symboles. Et enfin, un symbole que j'ai dessiné dans mon héraldisme pop, qui est un serpent à robase, hein, qui parle de la manière dont Internet s'immisce dans nos vies. Et donc je dirais que c'est ces symboles. Mais le cœur revient. Ainsi que l'arc-en-ciel aussi.
Le serpent de la tentation aussi.
C'est le serpent de la tentation.
Mais le serpent apparaît sur la marelle, en fait, effectivement, oui, en forme d'arrobase, comme une forme de mise en garde, de danger absolu, de ce que ça peut représenter.
C'est ça. C'était important pour moi de mettre en place une forme d'héraldisme des émotions, hein, et de suggérer à ce que ça ressemble au son qu'a fait Julien Granel ensuite.
Trois totems bordent l'exposition, un dédié à la nature, un autre à l'espace, un dernier à la ville. C'est sur ces trois thématiques précises que vous invitez les jeunes générations à réfléchir en quoi elles sont des enjeux.
Oui, ces trois totems sont très importants dans une société où les cultes différents, les confessions sont au centre de polémiques. C'est comme des symboles de rassemblement. Hein, dans la tribu du peuple de demain, il y a ces trois totems. Il y a celui du cosmos qui nous parle du déplacement de la Terre vers l'espace. Il y a celui de la nature avec ses préoccupations. Et enfin, il y a celui de la ville qui est plus urbain, avec le Wi-Fi, avec toutes ces nouvelles dimensions qui sont là très insistantes. Et en fait, ils sont là un peu comme des protecteurs, hein, comme c'est des figures de 4 mètres. Je les ai voulu comme des sculptures, c'est-à-dire, il faut dire que l'exposition est très très bien éditée à la manière d'une installation artistique, plus que comme un décor. Donc ils sont là avec leur force.
Donc la réunification plutôt que la division.
C'est cela.
Et l'exposition permet aux enfants de découvrir les signes et symboles de l'univers Castelbajac, de les inscrire dans une histoire, un environnement beaucoup plus vaste. Et l'avantage, c'est que contrairement au musée dit classique, ici on peut et même on doit tout toucher.
Ah, on doit tout toucher. Hein. On n'est plus
ici, on touche pas.
Je pense que ça c'est le maître mot. C'est-à-dire que je ne voulais pas d'une exposition de contemplation. Ouais. Je voulais une exposition de partage. Je voulais aussi, il faut vous dire que j'ai construit cette exposition et cette installation alors que j'étais jeune papa. J'étais confiné et donc je le voyais comme une issue, comme une sorte de rédemption, comme une sorte de solution. De comment se retrouver. Et en fait, ce qui me touche le plus, c'est de voir des familles. J'ai même vu mon amie Vivian Westwood qui est venue, qui a joué à la Marelle. Toutes les générations retrouvent le chemin de leur enfance, en fait. Et ça, c'est très important.
Qu'est-ce que vous, Jean-Charles de Castelbajac, vous avez envie de transmettre à ce peuple de demain? Un goût pour les signes, un goût pour la symbolique, un éveil à la sensibilité artistique?
Moi, je viens d'une génération où je suis passé de l'héraldisme, qui était ma passion, qui est la science des drapeaux, à une génération de logos, de la société de consommation, et ensuite la plongée dans le digital est arrivée. Et donc j'avais une passion pour l'épique, hein, pour, ouais. pour la conquête, l'épopée, non, la chevalerie, ouais. des choses oui. comme ça ouais. qui me portaient. Et j'ai voulu replonger dans cette histoire parce qu'en fait la lecture est très simple. Mm-hmm. Elle est composée de signes très simples, mm-hmm. elle est composée de codes très simples, de quatre couleurs, le rouge, le bleu, le jaune, qui s'appellent mère, différemment, ouais. de gueule, d'azur, sinople et d'or. Et en fait, je voulais que les enfants repartent sur des bases aussi simples, créer leur signe, leur identité, et s'approprier ainsi ouais. Quelque chose qui leur appartient réellement.
Le peuple de demain, d'ailleurs au passage vous m'avez appris un mot, c'est la vexillologie.
La vexillologie, bah, très importante dans le peuple de demain, c'est les drapeaux.
Les drapeaux,
du sont les mal-aimés de la France.
Du grec, hein, vexillo,
on n'a jamais trop aimé, c'est ouais. la science des drapeaux, ouais. on n'a jamais trop aimé nos drapeaux en France, hein, trop assimilés à des partis politiques et ouais. tout. Là, j'ai voulu, comme vous l'avez bien dit, que ces drapeaux soient le centre et le départ de signes représentant des ouais. émotions.
Et vous avez dessiné un très beau drapeau français, avec ce blanc qui réconcilie tout le monde.
Soudain, cette plateforme est très visible, c'est ouais. comme un bateau de Peter Pan, ouais. Et il appelle avec 25 drapeaux qui portent les codes. Et je dois souligner le travail exceptionnel de Julien Granel, qui a mis en musique, qui s'est vraiment investi. On a créé un synthétiseur qui s'appelle ouais. le Synthémo, qui est le synthétiseur des émotions. Voilà, donc on part du médiéval, on va jusqu'à l'électro.
Grâce soit rendue donc à Julien Granel. Le peuple de demain, c'est au centre Pompidou, c'est donc un atelier dont vous fournissez les outils, votre travail graphique et votre art chromatique, c'est aux enfants de jouer avec, mais justement pour ce qui est du dessin, vous publiez chez Flammarion ce beau livre qui rassemble des dessins pour la plupart inédits que vous avez réalisés entre les années 70 et aujourd'hui. Quel lien voyez-vous entre le Jean-Charles de Castelbajac d'il y a un demi-siècle et celui d'aujourd'hui, dans ses dessins, à travers ses dessins?
La témérité peut-être, mm-hmm. hein, la témérité, ouais. le côté têtu, hein, le côté je vais mon chemin, ouais. Le côté aussi, cette envie de conquérir tous les territoires, mmh. en fait, qui m'a été aussi reproché, mmh. mais qui a la chance d'avoir une gamme chromatique qui fédère le tout, ouais. le tout, en fait, ouais, cette, ouais. Cette transversalité. Le peuple de demain est accompagné mystérieusement au même moment par ce livre qui s'appelle Dessin tout terrain. Ouais. Alors certains disent que c'est le catalogue du peuple de demain, pas du tout. En fait, c'est la conséquence. Ma femme Pauline voyait ces milliers de dessins qui étaient dans des boîtes. Ouais,
j'imagine le nombre.
Qui me disait mais est-ce que tu les as regardés? Et en fait non, pas du tout. Je ne voulais avec ma volonté toujours de regarder le futur. Ouais, j'ai du mal à feuilleter mon histoire.
Je vais vous dire le point commun, moi Jean-Charles, c'est qu'on ne s'ennuie jamais avec vous. Est-ce que c'est pas une belle revanche finalement sur cet enfant que vous avez été qui s'ennuyait un peu, beaucoup même.
Oui, et vous avez raison, c'est une belle revanche. Et à la fois, comme je le disais durant le confinement, dans certaines conversations, l'ennui a été la base de mon imaginaire. Hein. Donc,
écoutez ça, les enfants.
Aujourd'hui, on s'ennuie. Les enfants ne s'ennuient plus. Ouais, hein. On ne laisse plus les enfants s'ennuyer. Et lorsqu'on s'ennuie, on invente. Mmh. Et donc, moi, je me suis ennuyé, mais des longues journées, des débuts de nuit dans les dortoirs sinistres et tout. Mais c'est là qu'est né mon talent et ma créativité. Donc, laissez vos enfants s'ennuyer. Quoi.
En exergue du livre, une citation d'Okusai, quand j'aurai 110 ans, je tracerai une ligne, ce sera la vie. Alors, comme on parle beaucoup d'enfance aujourd'hui, oui. vous, quand vous étiez petit, quand vous traciez une ligne, c'était pour symboliser quoi? Vous pensiez à quoi?
Bah, c'était en général une échelle pour me sauver ou un trajet entre un arc et une flèche quand je faisais des batailles ou l'horizon d'un mur que je devais dépasser. C'est vrai que il y a toujours eu cette idée d'aller vers un autre horizon. Mmh. Hein. Oui. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma vie habité par une grande sérénité où je ressens une espèce de convergence de mes possibilités. Mmh. Et ça, c'est délectable. C'est délectable. Ce qui m'arrive est mystérieux et extraordinaire. Je regarde, par exemple, au Centre Pompidou, j'ai créé, à côté de mon exposition, une trentaine d'objets ce qu'on appelle en général des produits dérivés, mmh. et qui sont pas très bien considérés en général. C'est un acte de marketing. Et là, j'ai voulu les créer en même temps que l'exposition. Et je voulais qu'il y ait des choses très accessibles, que chacun puisse partir avec un fragment de l'exposition. Donc, tout se met en place. Mon savoir de fashion designer, mon savoir d'artiste, mon envie d'homme, hein, et de transmettre.
Et votre goût de l'éphémère aussi.
Et mon goût de l'éphémère. Ouais. Bah, bien sûr, mon goût de l'éphémère. Ça qui est omniprésent. Ouais.
Vous avez été sensibilisé très tôt au dessin, Jean-Charles, à cette manière particulière de traduire vos émotions, sachant que vous dessinez tout le temps, sur tous les formats, sur tous les supports. Comment est-ce que vous avez pu organiser ce livre? C'est un beau livre, hein, qui est un gros livre dense.
Il a été... le chef de projet, c'est Pauline.
Ah, c'est Pauline.
Pauline de Droit, ma femme. Mm-hmm. Julie Roir, qui est mon éditeur, l'a supervisé. C'est un livre, en fait, qu'on a choisi d'être chronologique. Hein, donc, il y a au début ces dessins de mai 68 que je faisais en rentrant de manif, des choses que je voyais et tout. Et ensuite, il y a plusieurs facettes de mon utilisation du dessin. Il y a des dessins mélancoliques, il y a des dessins de blues, bien sûr, il y a des dessins outils, quand je veux traduire une idée. Et aujourd'hui, il y a aussi mes dessins de la rue, en tant que créateur, à la craie depuis 30 ans, qui sont importants.
Avec ces anges, ces fameux anges.
Vous dites « je dessine mes silences ». Alors, est-ce qu'on doit en déduire, vu la quantité de dessins produits, que vous êtes d'un naturel taiseux ou plutôt pudique ?
Plutôt pudique. Plutôt pudique. Et en fait, c'est une forme de prière, chaque dessin. Je crois qu'il y a ce moment d'intimité, de solitude avec moi-même. Donc, oui, je dessine mes silences. Et Maeterlinck disait « Nous ne nous sommes pas aimés car nous n'avons pas eu assez de silence ensemble ». Donc il y a ça dans le silence. On est dans une société tohu-bohuesque, où justement on parlait tout à l'heure de l'ennui. L'ennui n'existe plus, le silence n'existe plus. Hein. Donc,
regardez Jean-Charles, regardez.
Un ange passe.
Voilà. Et je viens de vous offrir quelques secondes de silence.
C'est beau.
Ça n'existe pas, ça, vous savez, en
non.
radio.
Hein? Bah non.
Non, on va se faire engueuler.
Non, je ne pense pas.
Bon, alors, le peuple de demain, hein, ça c'est au Centre Pompidou.
Exactement, Galerie des Enfants.
Oui. Et voilà. Jusqu'au 9 mai.
Et ce très beau
livre. Donc c'est une longue exposition, et ça c'est formidable.
Ce très beau livre qui s'appelle Dessin tout-terrain, il est édité, lui, chez Flammarion. Jean-Charles de Castelbajac, dans la suite de Pop, il va être question de...
Ils ont enterré un bateau ici.
Il s'agit d'un petit mec de Provence.
In 39 AD, Caligula,
il aime la musique.
He's one of the most powerful men in the world.
Et le cinéma.
Du Jean-Charles de Castelbajac, pop culturel, du film britannique donc The Dig, de la série Roman Empire, de la collab entre le groupe The Luminianas et Laurent Garnier, et évidemment de pop culture tout court. Ce sera juste après le tout nouveau morceau de Jacques, La vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours.
Et de retour, Jack is back. Il le prouve avec ce morceau, La vie de tous les jours, Every Day's Life. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors, ce son, c'est un son de la marelle sonore de votre exposition, Jean-Charles de Castelbajac. Expliquez-nous pourquoi il vous évoque la pop culture.
Mais je voulais parler d'émotions. Hein. Je voulais parler d'émotions et je voulais... transformer l'abstraction qu'évoque ce mot pour certains enfants en un référent sonore et contemporain. Mm-hmm. Donc j'ai demandé à Julien Granel, de transformer cette série de symboles, de dessins et d'émotions en sons. Et ensuite, comment composer à partir de ces sons une mélodie, une symphonie émotionnelle en quelque sorte. C'est le but du peuple de demain est là. Donc c'est très étonnant de voir cette marelle où se succèdent à la fois le hasard, la synchronicité et les émotions qui produisent ces sons tout à fait personnels pour chacun.
La pop culture, c'est une marelle sonore, ça me va tout à fait. Bien, oui, restons.
C'est une marelle avec des ailes, oui.
Avec des ailes toujours, bah oui, restons dans cette pop culture, dans votre pop culture, avec votre popliste Jean-Charles. Un livre, un film, une musique, une série, voilà les pop prescriptions que vous allez nous livrer. Alors deux livres sont actuellement sur votre table de chevet, Jean-Charles de Castelbajac, le vôtre qui est joyeux, et celui de Christine Angot qui l'est moins. Vous alternez en fonction de l'humeur ?
Non, je prenais le train, j'ai choisi ce livre.
Ah, c'est plus pratique.
J'ai choisi ce livre.
Il est plus transportable.
Et le lisant, j'ai vécu une émotion extrêmement forte qui m'a fait penser à une émotion que j'avais vécue adolescent en lisant La nausée de Sartre.
Ah oui, carrément. Alors attendez, avant d'aller plus loin, Charline, vous qui avez lu tout Angot, de quoi nous parle son dernier roman, Le voyage dans l'Est ?
Plus de 20 ans après l'inceste, Christine Angot raconte de nouveau sa propre tragédie, son père, ce bourreau.
Donc c'est intense. Est-ce que vous pouvez nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, Jean-Charles ?
Est-ce qu'on demande à un enfant battu s'il a eu mal ? Pourquoi demande-t-on à un enfant violé s'il a eu du plaisir ? Un enfant battu est humilié par les coups. Un enfant violé par les caresses. Ce sont des stratégies d'humiliation dans les deux cas. L'inceste est un déni de filiation qui passe par l'asservissement de l'enfant à la satisfaction sexuelle du père.
Un extrait du Voyage dans l'Est de Christine Angot. Donc voilà une touche quand même de sombre, de ténèbres dans ce festival de lumière que vous représentez.
Oui, festival de lumière. C'est la lumière est là pour éclairer le sombre. Donc la lumière n'est pas là pour éluder les travers de la société. Ma lumière est là pour porter l'espoir. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu cet ouvrage, cette nausée a ressurgi, cette nausée que j'ai à l'égard de ceux qui maltraitent les enfants, de ceux qui maltraitent les femmes. Voilà, donc j'étais en colère.
Christine, et ce sentiment de colère, je l'avais pas ressenti depuis longtemps en lisant un ouvrage.
Le choix de Jean-Charles de Castelbajac, le livre de Christine Angot. Jean-Charles, votre film du moment, c'est The Dig de Simon Stone. C'est un film britannique sorti en 2021 avec Ralph Fiennes et Carey Mulligan. C'est un film qui creuse, si j'ai bien compris, Charlie.
Je vous le confirme. Une riche veuve engage un archéologue amateur pour exhumer une sépulture dans sa propriété. Il découvre alors un ancien navire funéraire saxon. Mais attention, le British Museum rôde autour de l'éventuel trésor.
Madame Petit, je vous suggère de m'accompagner sur le champ.
Pourquoi ils ont enterré un bateau ici?
Cela devait sans doute être un homme important, un chef de guerre ou un roi.
Il y en a plein d'autres, partout.
La guerre est imminente et nous avons besoin de toutes les ressources disponibles pour finir avant qu'elle n'éclate.
Le haut Moyen-Âge se révèle enfin à nous.
Tout le monde va vouloir se l'approprier, mais c'est à découverte.
Évidemment, c'est la version française qu'on aura tous reconnue.
Ils sont bilingues tous les deux.
Donnez-nous envie de creuser, Jean-Charles.
Mais non, mais moi, cette histoire m'a tout à fait séduit. Hein. Je suis passionné d'histoire, passionné de vikings, de Valhalla, de quêtes médiévales.
Vous êtes passionné tout court.
Cette femme qui hérite de cette propriété, qui fait creuser ce tumulus qui est là depuis des siècles, et soudain qui découvre ce formidable navire viking qui est en fait une tombe d'un grand chef. Déjà la métaphore, l'idée de creuser et de découvrir un navire m'enchante pour le grand voyage, quoi. Donc tout m'a plu dans ce film.
Très bien. La série que vous binge-watchez en ce moment, c'est Roman Empire sur Netflix. C'est une série américaine démarrée en 2016 qui a bouclé déjà 3 saisons. Roman Empire, Charlie, il ne serait pas question de l'Empire romain par hasard?
Mais quelle perspicacité, merci, Antoine,
merci,
tout à fait.
Mi-documentaire,
mi-série romancée, chronique des règnes agités et violents de Commode, de Jules César, de Caligula, empereur de la Rome antique.
In 39 AD, Caligula is one of the most powerful men in the world. But he will come to be known as Rome's mad emperor.
It's clear Caligula was not a well man. There's a nasty edge that creeps in.
Rome underwent a reign of terror.
Saison 3 de Roman Empire, et après les commodes, non,
oui.
C'est pas commode,
oui, oui.
Et Jules César, qui était encore moins, voici commode, le oui. règne de Caligula.
Ce qui est fascinant dans cette série, c'est la qualité de documentation, en fait. Hein. C'est direct. On croit que les scénaristes sont Tite Live, Polybe ou César lui-même quand il parle de la guerre des Gaules. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces séries. D'ailleurs, dans Viking aussi, on retrouve les personnages, sont des personnages réels. Alors qu'à ma génération, tous les personnages historiques étaient matinés, étaient un peu à la manière de Walter Scott, matinés des pics. Ouais. Là, on est vraiment dans la réalité. On voit par exemple ce fameux Commode, fils de Germanicus, descendant indirect de Marc Aurèle. Il n'a pas été à la guerre et donc on lui dit il faut vraiment que tu te fasses affirmer par le combat et il devient gladiateur. Il devient gladiateur pour étonner les foules et on distribue effectivement aux autres gladiateurs des épées émoussées pour pas tuer l'empereur. Donc c'est tout à fait extraordinaire.
J'adore cette passion de cet homme. Vous avez vu comment il
s'enflamme?
Mais oui, un enthousiasme intact pour tout, pour l'histoire,
pour
les
sommets.
Non, pas pour tout, mais écoutez, c'est ce que j'aime chez vous,
oui,
Jean-Charles.
Oui.
Terminons cette pop-list, Jean-Charles de Castelbajac, avec votre morceau du moment, et ce morceau, c'est celui-ci.
Il s'agit d'un petit mec de Provence. Il aime la musique et le cinéma.
Soul, c'est signé par The Luminanas et Laurent Garnier. C'est une musique qui chauffe le roi de la piste que j'ai connu, non?
C'est difficile de choisir, parce que mon premier choix, c'était le merveilleux single de Bertrand Burgala, qui était L'homme idéal, hein, parce que je trouve que c'est un titre magnifique.
Ouais.
Et puis Luminanas,
Il y avait ce côté un peu 60 quand j'ai aimé Ronnie Bird, quand j'ai aimé tous les artistes un peu marginaux, les premiers albums d'Antoine. Il y a ce son un peu, j'allais dire crade, je sais pas si c'est le mot qu'on retrouve aussi chez Brian Johnston, chez Massacre. Et le fait que Laurent Garnier soit là, il y a quelque chose que je trouve ultra contemporain. Cet électro, à côté de ces guitares, bien matinées de cambouis et d'huile castrol, quoi. Donc, et puis, chez les Mignanas, il y a ce côté narratif, de storytelling. Il y a toujours, c'est toujours des matins pas très clairs, avec des filles pas très claires, et des garçons pas très clairs. Et tout ça donne quelque chose de d'éminemment cinématographique et sympathique. Inspirant, en tout cas.
Voilà une magnifique pop-list, celle de Jean-Charles de Castelbajac. Et on va écouter ce morceau en intégralité dans un instant. En attendant, il est 16h40, pop break dans l'émission, puisque c'est l'heure des pop news.
Jacob est un drôle de jeune homme, il est persuadé d'être un loup. Jacob, c'est George Mackay, le héros de 1917, le loup dans cet étrange film, le titre est Wolf, signé Nathalie Biancheri. Alors comme Jacob se pense loup, le voilà interné dans un foyer de jeunes gens perturbés qui pensent tous être des animaux, un foyer dirigé avec poigne et traitements douteux par un homme appelé The Zookeeper, le gardien du zoo, et un endroit dans lequel Jacob va faire une rencontre tout aussi étrange.
Once upon a time, there was a wolf and a wild cat who wanted to live happily ever after.
It's not just about surviving, but surviving is me.
Wildcat, la jeune fille qui se prend pour un chat sauvage, donc c'est Lily Rose Depp. Le film sort en décembre aux États-Unis et devrait arriver dans la foulée chez nous.
Une reprise de Dylan par Johnny Cash pour la première fois sur un album. L'album en question, c'est Beer's Sonic Journals, Johnny Cash. Un concert d'avril 68 depuis le Carousel Ballroom de San Francisco. Et le titre de Dylan, ici repris par l'homme en noir, c'est Don't Think Twice, It's Alright.
I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Well, it ain't no use in turning on your light, gal. The light I never know. No, it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road.
Check it. Pardon. Alors, avis aux fans, cet album de Johnny Cash live sortira le 29 octobre.
Retenez ce nom, Wet Lake. Derrière cet humide alias se cachent Rian Tisdale et Hester Chambers, deux résidents de l'île de Wight, dont nous vous avions déjà parlé à l'occasion de la sortie de leur premier single, Chaise Longue. Les revoilà avec un deuxième titre tout aussi séduisant et mouillé, Wet Dream. Wet Dream de Wet Leg est dispo sur toutes les plateformes et pour voir le groupe sur scène, rendez-vous le 19 novembre à Paris dans le cadre du Pitchfork Festival.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
C'est Johnny Cash.
Mais évidemment, Johnny Cash. Bravo, Charline. Premier coup, Jean-Charles.
Super, ben. Et les Wet Leg, c'est vraiment
c'est
bien.
Très bien.
Moi,
ouais.
J'avais adoré Chaise Longue.
Jean-Charles, on va plus l'arrêter. Dans la suite de Pop, je vous propose de rencontrer Rada Akbar. C'est une jeune artiste afghane qui a fui son pays. Ce sera juste après votre morceau du moment.
Super.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique. Thank you. des années 60. Elle a 18, 19 ans. Elle est jolie et douce.
Laurent Garnier et les Mignonas, c'était le morceau Soul, le choix de notre invité aujourd'hui, Jean-Charles de Castelbajac. L'émission continue.
Aujourd'hui sur France Inter, les Afghanes nous parlent. Hashtag avec les Afghanes.
Et vient de nous rejoindre la photographe afghane Rada Akbar. Bonjour Rada.
Hello, it's a pleasure to be here today.
Jean-Charles, this is Charlene.
Hello. Voilà, enchantée.
Rada Akbar, vous êtes photographe, vous êtes née en Afghanistan, vous avez grandi pendant la guerre, vous avez commencé votre carrière dans les arts visuels pour, je vous cite, exprimer et aider à expliquer les réalités qui vous entourent. C'est-à-dire que l'art, c'était dès le départ votre manière de résister avant même le retour des talibans.
Part of my identity has always been to be an artist.
Oui, c'est vrai qu'une partie de mon identité, c'était vraiment le fait que je sois artiste. Je me définissais comme ça parce que l'art, c'était un outil pour moi, un instrument pour m'exprimer, mais aussi, comme vous avez repris ma citation, relater, décrire les réalités qui m'entouraient. Ça, depuis que j'étais gamine. J'ai vraiment toujours été tournée vers les arts, la créativité. Ça fait vraiment partie de moi.
Jean-Charles a commencé à dessiner très très tôt aussi.
Et vous aviez une idée très forte dès le début, puisque vous expliquez l'histoire des Afghanes n'a pas commencé en 2001. Nous avons un long et riche passé auquel les femmes ont toujours contribué. Est-ce que par votre travail, l'idée était aussi de rendre aux femmes afghanes la place qui leur est due dans l'histoire ?
One thing that was very... I would find it very disrespectful was that,
il y avait une chose qui me choquait, un manque de respect, à savoir que les femmes afghanes étaient toujours décrites comme des victimes, et uniquement des victimes. Moi, je voulais changer ça, cette vision, ce récit. Et je voulais dire au monde qu'on n'a pas commencé à exister en 2001 avec l'arrivée des Américains. Non, on a une très longue histoire. Et à travers les événements politiques, culturels, etc. C'est pour ça que j'ai lancé ce projet qui s'intitule Super Femmes. Je voulais leur rendre honneur et saluer leur contribution à l'histoire, à notre histoire et à notre société.
Comme tous les Kaboulis, enfin comme le monde entier d'ailleurs, la victoire fulgurante des talibans vous a prise par surprise. Il était vital pour vous de fuir. Comment s'est organisé votre départ dans la précipitation ?
I'm still in a state of shock.
Oui, je suis encore en état de choc. Je n'ai pas vraiment encore digéré ni pleinement assimilé ce qui vient de m'arriver et ce qui vient d'arriver à mon peuple. Le 15 août, quand j'ai entendu les nouvelles, les talibans entrer dans Kaboul, et j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui me prévenait que les talibans étaient en train d'entrer dans Kaboul. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, mais c'est pas possible. C'est impossible que les talibans prennent Kaboul et aussi vite. Dans les quelques heures qui ont suivi, je me suis retrouvée à l'ambassade de France pour demander leur protection. En effet, j'avais des liens avec des journalistes français, l'ambassade de France. Ils m'ont appelée, ils m'ont aidée, ils m'ont dit tu dois faire tes bagages tout de suite, fais ça, et tu dois être à l'ambassade de France dans moins d'une heure. Donc tant bien que mal, j'ai jeté quelques vêtements dans une petite valise, je les ai retrouvés à l'ambassade et j'étais là avec beaucoup d'autres Afghans, dont des femmes, et on y a passé plusieurs jours, plusieurs nuits, comme vous le savez, dans cette ambassade, et finalement on a pu joindre l'aéroport. Et c'est au bout de 4 jours qu'on a pu être évacués.
Et vous avez dû tout laisser sur place, y compris votre matériel, tout votre matériel photo dont vous avez besoin pour travailler. D'ailleurs, je lance un appel à tous nos auditeurs. On a besoin pour RADA de matériel photo, d'appareils numériques. Voilà, pouvez-vous manifester à travers notre site, le site de Pop. Il est très difficile de garder l'espoir, dites-vous, cet espoir qui est un des moteurs essentiels de Jean-Charles de Castelbajac. Alors, chaque jour pouvait être le dernier. Vous disiez, que va-t-il se passer demain? Est-ce que je serai encore vivante? Ma concentration, ma créativité s'en ressentent. Comme tous les Afghans, j'ai peur de l'avenir. Comment est-ce qu'on vit dans une angoisse pareille? Comment est-ce qu'on vit cette angoisse en tant qu'artiste, RADA, puisque c'est notre sujet ici?
C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on avait tout perdu en Afghanistan, et ce n'était pas la première fois que je devenais réfugiée. La dernière fois, quand les talibans ont pris une première fois le pouvoir, là aussi on avait dû quitter le pays et tout laisser derrière nous. Mais cette fois-ci, ça a été plus difficile parce qu'aujourd'hui je suis adulte. Et j'ai des liens très forts avec mon pays. Ces liens ont mûri, donc c'est un vrai crève-cœur d'être parti. Mais comme je vous le disais, je crois que je suis vraiment encore en état de choc. Quand je suis partie, l'essentiel pour moi, c'était de sauver ma peau. Il fallait que je sauve ma vie, donc je n'ai pas pensé à... Et je ne pouvais pas emporter tout mon équipement, mes caméras, mes appareils photo, tous mes vêtements. Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais avoir qu'une valise de moins de 20 kilos avec moi. Mais l'espoir... Oui, l'espoir... Ça a toujours été ça qui m'a guidée, qui m'a aidée à créer et à aller de l'avant. J'ai connu la guerre, les conflits, l'exil avant, mais toujours il y avait cette lueur d'espoir qui me tenait, qui me gardait debout et motivée.
On a parlé de vexillologie avec vous, Jean-Charles. RADA Akbar, le jour de votre départ en urgence, vous avez pris la peine de filmer le drapeau afghan installé en face de votre appartement ainsi que votre table de déjeuner. Pourquoi ces deux emblèmes-là?
Because home, my place, was the only place that I was at, peace.
À ce moment-là, j'étais encore chez moi et c'était le seul endroit de paix que je connaissais parce que depuis 20 ans, il n'y avait pas la paix en Afghanistan. Il ne faut pas l'oublier, il y avait toujours eu un état de conflit et d'insécurité. Mais là, j'étais pour la dernière fois chez moi, je jouissais d'une totale liberté et j'étais en paix en quelque sorte. Et tout ce que j'ai fait dans cet appartement, c'était toujours rempli d'amour. Et donc tout quitter tout ce monde dans l'espace d'une heure, je ne savais pas quoi retenir comme petit instant, quoi capturer. J'allais quitter ma maison, la table que je connaissais si bien, le drapeau que je voyais flotter par ma fenêtre. Tous les matins, je voulais capturer ces petites scènes du quotidien qui m'avaient accompagnée. Je savais que c'était la dernière fois que que je vivais tout ça, que je voyais ce paysage. Et voilà.
Aujourd'hui, France Inter est solidaire du combat des femmes afghanes, des femmes fortes qui ont façonné l'histoire afghane et qui ont influencé sa culture, dites-vous, Rada. Ces femmes, vous les mettez en avant, vous les magnifiez à travers votre travail, à travers vos expositions. Je pense notamment avec à votre projet à Barzanan, qui signifie « superwoman ». Ces superwoman, ce sont des reines, des poètes, des musiciennes, des sportifs. Comment est-ce que vous les choisissez, ces superwoman?
So I know some of these women from the history. They are, you know,
qui m'étaient familières à travers l'histoire de mon pays. Certaines m'ont beaucoup inspirée. C'était un peu des modèles à suivre. Ce sont mes parents, pour beaucoup, qui m'en ont parlé. Parce que dans mon travail, je choisis des femmes, bien sûr, de l'histoire ancienne du pays, mais aussi de la modernité. Je voulais aussi célébrer des femmes qui sont encore en vie, qui se battent au quotidien, malgré les difficultés et qui contribuent à faire avancer notre société. Donc je voulais leur rendre hommage à elles aussi et les inclure dans ma collection. Pour la sélection, c'est super femmes. Bon, ben, je fais une sélection avec des amis ou des parents, ma famille, des cousins. Personnellement, j'ai vraiment besoin de me plonger dans l'histoire de chacune de ces femmes pour arriver à créer ces monuments, ces totems pour leur rendre hommage.
Ah, les totems, en revoilà les totems.
Alors je me sens très proche du travail de Rada parce qu'il y a cette idée de s'inspirer de l'histoire comme dans sa dimension exemplaire pour le futur. Il y a notamment un portrait sur son Instagram d'elle avec une couronne majestueuse.
Comme une reine.
Comme une reine. Ouais. Et dans le regard des femmes afghanes, il y a cette détermination et cette force qui est impressionnante.
Admiration d'un artiste pour une autre artiste. Cette journée spéciale sur France Inter est en partenariat avec Combini qui est allée à la rencontre d'Atifa, une adolescente qui est arrivée en France il y a un mois. Du haut de ses 15 ans, elle milite pour le droit des femmes avec ses dessins et ses mots. Écoutez.
Je m'appelle Atifa, j'ai 15 ans. Ça fait un mois et 5 jours qu'on est parti d'Afghanistan. Je suis avec ma famille, malheureusement l'une de mes sœurs est encore en Afghanistan. En mai dernier, j'étais à l'école. Quand on est sorti, il y a eu un gros bruit tout à coup. La prof nous a dit « Partez, si vous voulez rester en vie, vous devez partir, passez par-dessus le mur. » J'ai perdu l'une de mes amies. Elle faisait partie de la famille.
Et la suite est à retrouver sur Combini News. Quand on prend un crayon, on se sent différent. Voilà de quoi on parle ici.
Bon.
Ça vous dit quelque chose, ça, Jean-Charles?
C'est très beau.
Bon, Atifa nous dit qu'elle se sert du dessin pour se relaxer. Est-ce que c'est une technique que vous conseillez à tous les enfants du monde qui sont comme Atifa dans des situations épouvantables?
Oui, mais c'est aussi pour communiquer avant tout.
Communiquons avec le dessin. Rada Akbar, merci infiniment de nous avoir rendu visite. Merci.
Thank you. It was a pleasure to be here.
Et que tout le monde envoie plein de matériel photo à Rada pour qu'elle puisse recommencer à travailler.
À commencer par les fournisseurs d'appareils photo.
Voilà. Mais sinon, tout le monde aussi. Et moi, j'invite toutes les pop-upiennes et pop-upiens à les retrouver sur notre site franceinter.fr. 5 façons concrètes d'aider les femmes afghanes, ainsi que la liste des associations qui œuvrent pour l'avenir de ces femmes. Et j'en profite pour annoncer que ce soir, dès 20h, vous pourrez écouter ou venir assister à un événement exceptionnel diffusé en direct depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, réunissant sur un même plateau des artistes afghanes et françaises. Réservation, Maison de la Radio et de la Musique.fr. Voilà. Merci Jean-Charles.
Merci Antoine.
Le peuple de demain, c'est à découvrir au Centre Pompidou jusqu'au 9 mai. Je rappelle que votre livre Dessin tout terrain est édité chez Flammarion.